l'heure du thé, dimanche 31 janvier. Nous avons un nombre d'invités autour de la table et à distance, puisque c'est une émission qui se fait en même temps de manière virtuelle et de manière concrète, réelle, avec... Bon, on va laisser les invités se présenter. On a circulé un flyer avec un projet, un programme. L'heure du thé, c'est la transition tranquille. Transition, puisque ambition politique d'avoir une démarche à long terme qui va amener notre territoire vers une solution, en tout cas un développement souhaité, la transition vers un monde souhaité. Et en même temps, un ancrage très concret, puisqu'on va aborder avec trois mondes associatifs différents, plus un guide touristique. Nous allons aborder les différents enjeux de la transition qui, à l'heure actuelle, sur le PGF, peut se concrétiser par plusieurs aspects que nos invités vont détailler. Alors, nous avons déjà M. Léniel de Pacte de la Transition qui va modérer ces discussions. Un petit mot, Yannick, pour te présenter.
Oui, bonjour. Je m'appelle Yannick Léniel et je fais partie de l'association Face à Demain, Pacte pour la Transition, dont la mission est d'essayer d'accompagner, de booster, de promouvoir toutes les initiatives qui sont en accord avec la transition sur le PGEX. Et voilà. Et donc je suis là pour essayer d'animer, de donner la parole et de poser des questions pertinentes pour faire réfléchir nos invités.
Merci. On va passer la parole au deuxième intervenant.
Bonjour. Florence Rademacher, je suis ici pour représenter le groupe Zero Waste PGEX. Nous, notre mission, c'est vraiment le plaidoyer auprès des citoyens, auprès des institutions du territoire du PGEX pour la réduction des déchets et du gaspillage.
Voilà, donc Vinciane Hardy, aussi membre de l'association Zero Waste PGEX, qui est en fait une émanation locale de l'organisation Zero Waste France.
Et oui, alors, Monsieur Amod, vous allez prendre votre micro, l'allumer.
Oui, voilà. Oui, c'est bon.
Parfait.
Michel Amiot, alors donc, moi je suis membre d'ATAC, membre d'eau bien commun PGEX. Donc je participe à différentes commissions, au comité technique consultatif de la régie des eaux et à la CCSPL où je représente ATAC depuis 2004.
Et nous avons de manière virtuelle, alors on va voir si ça marche sur le téléphone, nous avons une conf call avec deux personnes. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Giraud?
Oui, bonjour, donc j'espère que vous m'entendez.
Oui, on vous entend.
Oui, c'est bon. Donc, je suis animateur touristique. Et voilà, pour l'instant, je suis à l'école de ski de la Vaté. Je viens de finir mes cours de ski. Et je peux participer à cette réunion et puis vous partager ma vision des choses, ma réflexion surtout.
D'accord. Merci. Et Monsieur Pinet, je ne sais pas comment on peut lui dire de mettre son micro à distance. Voilà, on s'en occupe. On va faire l'introduction tout à l'heure. Donc, on est autour de cette table pour discuter, pour se rencontrer, pour prendre conscience d'eux, pour bénéficier du point de vue de chacun d'entre nous par rapport à son ancrage dans le territoire se donner les moyens de partager des expériences avec ce qu'on appelle, on va peut-être tout d'abord parler, alors, vu que... voilà, vous êtes là, Monsieur Amiot, et que vous êtes l'aîné de notre assemblée, alors en tout cas en présentiel. Il paraît que vous êtes un personnage assez connu de la sphère publique citoyenne, en tout cas du PGEX, et que vous œuvrez, comme vous avez dit au début de cette émission, donc au bien commun. Vous avez donc œuvré pour la discussion, le débat autour de la mise en bouteille de l'eau de Divonne. Peut-être vous avez estimé que vous avez gagné. Et c'est intéressant de voir comment cette privatisation d'une ressource naturelle, quel sens ça pouvait avoir au sein de la régie des eaux gérée par la communauté de communes, enfin l'agglo. Et pareil, comment est-ce que votre voix en tant que membre d'ATAC locale dans le processus de la CCSPL, qui est la CCSPL?
Alors, donc, c'est la commission consultative des services publics locaux C'est une commission qui est obligatoire à partir du moment où il y a une communauté de communes donc avec suffisamment d'habitants. Elle est obligatoire. Et donc, cette CCSPL, elle a été créée en 2003. Et donc, depuis 2004, c'est moi qui représente ATTAC, donc à ce niveau-là. Donc, au niveau de la CCSPL, ce que nous avons fait, c'est que nous avons, avant de co-bien commun, donc lutte pour le, contre l'embouteillage de l'eau à Divonne, notre collectif au bien commun Pays d'Aix, eh bien, a réussi à convaincre les élus de la CCPG, la communauté de communes du Pays d'Aix, de passer en régie à partir du 1er janvier 2018. En effet, donc, il y avait des contrats en délégation de services publics qui étaient attribués pour l'eau à la Sogedo et à Suez pour l'assainissement. En 2005, on s'était déjà battu pour essayer de passer en régie. On avait échoué. Et là, en 2015, on a créé ce collectif et on a monté des dossiers et on a réussi à ce que l'eau et l'assainissement soient traités en régie directe avec autonomie financière et personnalité morale. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc à compter du 1er janvier 2018.
Et du coup, par rapport à la voix citoyenne dans ce processus, par rapport aux autorités publiques, comment ça se passe alors ?
Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Eh bien, en fait, ce collectif, ce qu'il faut savoir, c'est que ce collectif au bien commun réunissait donc des associations, ATTAC, les Colibris, les Cupules Gonvilloises, il y avait Habitat Participatif aussi de Ferney, et puis il y avait trois partis politiques, le PS, le PC et Europe Écologie Les Verts, et on a eu le soutien aussi important de au bien commun Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, c'est ce collectif dès 2015, on l'a créé et on a donc rassemblé des documents pour convaincre les élus de la communauté de communes.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire en fait qu'est-ce qui fait que vous engagez, qu'est-ce que ça fait pour vous de vous engager, de militer pour ces trucs-là ? Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans tout ce que vous faites dans ces luttes, on va dire ?
Oui, c'est un engagement un petit peu politique hein, de toute façon. Ce qui est important, je pense, c'est que la société civile soit représentée. Et actuellement, même dans le Pays d'Aix, ce n'est pas suffisamment représenté, que ce soit donc au niveau de la commission consultative des services publics locaux, où actuellement on n'est que 4 associations, donc je pense que ça serait mieux qu'on soit plus nombreux, et même au comité technique consultatif de la régie des eaux gessiennes, on n'est que 3 associations. Je pense qu'il faut que les habitants du Pays d'Aix s'investissent, et moi c'est dans cette direction-là que j'essaie de remuer un petit peu la population, par voie de presse,
Il faut garder le micro devant le... là, on ne vous entend pas. Il faut parler.
Ok, du coup, je propose qu'on se tourne vers Florence et Vinciane de Zero Waste. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner la mission de votre organisation ?
Alors nous, vraiment, c'est une association apolitique. Et notre mission, c'est vraiment le plaidoyer pour la réduction des déchets. Pour la réduction des déchets et du gaspillage. On s'appelle Zero Waste parce qu'en fait, on a gardé la terminologie anglaise parce que waste, ça veut dire déchets, gaspillage. Donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Les citoyens se sentent une volonté. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut qu'on réduise nos déchets et nos gaspillages. Et donc, notre rôle, c'est vraiment d'aider les citoyens à faire le premier pas, à comprendre ce qui peut être fait, où ça peut être fait, comment ça peut être fait. Et aussi, bien évidemment, en parallèle, contacter toutes les institutions locales pour les aider aussi à analyser les endroits où il peut y avoir des possibilités de réduction de déchets et de gaspillage.
D'accord. Donc, vous mettez des outils à disposition des collectivités et des individus, des particuliers ?
Alors, pour le moment, l'association vient d'être créée l'été dernier. Donc, c'est vrai que dans le contexte sanitaire actuel, c'est compliqué de pouvoir rencontrer les personnes, agir sur le terrain. Mais l'idée, effectivement, c'est d'être là en soutien pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans le zéro déchet ou commencer à réduire ces déchets, soit à la maison, soit dans des collectivités locales. Alors, les outils Zero Waste France a effectivement toute une série d'outils à disposition. Pour le moment, on a un groupe Facebook qu'on alimente avec plein d'idées pratiques aussi, et puis un site internet en construction avant de se lancer dans des ateliers qui seraient plus participatifs et qui permettraient aux personnes, de les accompagner dans une démarche zéro déchet. De réduction des déchets, en tout cas. Le but n'est pas évidemment de ne plus avoir de déchets. Enfin, c'est compliqué de s'engager dans un premier temps là-dedans, mais de commencer petit à petit, pas à pas, en réduisant les déchets.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, de vous lancer là-dedans ? Qu'est-ce que vous y avez trouvé personnellement, en fait ?
Personnellement, moi, j'étais fatiguée de faire le constat et d'entendre à la radio, à la télé, dans les médias ce réchauffement climatique, cette pollution, ce plastique à usage unique qui pollue à tout niveau, au niveau de la santé, au niveau de l'écologie. Et donc, j'avais besoin de me sentir active plutôt que d'être juste passive. Et voilà, je me dis qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais le pouvoir de choisir ce qu'on achète, le pouvoir de ne pas trop générer de déchets ou de limiter, en tout cas, on l'a. Et de choisir ce que j'achète ou où je l'achète, de faire agir mon pouvoir d'acteur, de consommateur en tout cas, de consommateur en fait. Et puis surtout, je vois que c'est contagieux. Donc c'est en voyant d'autres faire qu'on a envie de faire et c'est en faisant qu'on donne à d'autres envie de faire aussi parce que parfois on n'a pas l'idée ou on n'en a pas conscience. Et puis en voyant les gestes des autres, ça nous donne des idées et puis ça peut faire effet boule de neige.
Oui, tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que le changement climatique, c'est difficile de le nier. Et l'action est un anti-anxiogène. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont anxieux, ne veulent pas le voir. Et qu'il y a un matin, on se réveille et on se dit il va falloir faire quelque chose, ne serait-ce que la façon dont on va transmettre la planète à ceux qui viennent après nous. Donc, c'est presque pas un choix, l'action. Ça fait du bien pour soi, évidemment, c'est pas l'idée, mais ça fait aussi, ça fait bien sûr du bien pour l'environnement, la planète, notre société, parce qu'il y a un changement de valeur aussi derrière le zéro waste. Mais c'est donner un sentiment d'action qui fait du bien.
Merci. Et vous vous êtes rencontrés à travers cette action ? Est-ce que ça vous a permis de rencontrer des gens finalement dans le pays de Jex,
Oui, je pense que ça c'est un aspect aussi qu'on n'a pas abordé. C'est le sentiment de pouvoir agir pour un territoire, de rencontrer des acteurs. D'ailleurs, c'est intéressant pour nous d'être là cet après-midi, puisqu'on débute, de pouvoir rencontrer, comprendre ce qui se passe dans le pays de Jex, et de s'insérer dans une collectivité, dans une communauté, de créer des liens. Et tout ça, et je pense que ça répond aussi à ce besoin-là de recherche qui réapparaît aujourd'hui.
Merci.
Peut-être la parole au... Est-ce que nos amis à distance ont des envies de dire des trucs ? Monsieur Pinet, Henri, je crois... Allez-y parler, je pense qu'on entend, on va vous entendre là.
Vous m'entendez là maintenant ?
Oui, on vous entend, voilà, bravo.
Ah bon, ça s'est amélioré. Parfait. Bon, écoutez, Bon, je ne peux pas répondre à ce qui vient de se dire. Ça dépend, disons, par rapport aux instances. Tout à l'heure, j'ai entendu parler des instances de la CAPG, donc si ça relie justement un peu les déchets aussi, hein, puisque la CCSPL, elle est là, c'est une commission consultative. Effectivement, ces instances, je les connais bien, puisque j'ai un passé de maire de Crozet. Et bon, j'ai toujours été intéressé par les réserves d'eau potable et leur gestion. Donc, en participant à une commission telle que ces commissions consultatives, cela nous permet de constater la situation, hein, de suivre les évolutions possibles dans la gestion de l'eau. Hein, quand on pense sur le pays de Gex, il y a presque 8 millions de mètres cubes qui sont distribués à peu près en 2019. Hein. Et puis, c'est la même chose pour voir la qualité du service de prévention et la gestion des déchets. Donc, si vous voulez, ces consultations-là sont nécessaires et même indispensables pour essayer que les associations fassent un lien entre les utilisateurs et les élus, de manière à apporter, si possible, des nouvelles idées si on en a et si on réussit à les faire passer. Donc essentiellement, je pense que là aussi, il y a un rôle à jouer, aussi bien pour les déchets et pour les classements ou le tri, y compris aussi les réserves d'eau potable et leur gestion dans ce genre de commission CCSPL.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation que vous représentez et de sa mission ?
Oui, alors bon, l'UFC que choisir, l'association, ben, c'est une association de consommateurs, hein, qui a un siège national, mais dans chaque département, vous avez 150 associations départementales. Donc nous, PIGEX, on fait partie du département de l'Ain, donc je suis représentant de l'UFC que choisir du département de l'Ain dans le PIGEX. Je fais des litiges, c'est-à-dire qu'essentiellement, l'association, elle traite des litiges qui existent entre les consommateurs qui font appel à l'association et les professionnels, tous métiers confondus, sauf les litiges qui peuvent avoir lieu avec les services publics, hein. La sécurité sociale, les allocations et tout ça ne rentrent pas dans le cadre des consommateurs. Alors, pour avoir une aide active de l'association au niveau des consommateurs, il faut être adhérent à notre association, adhérent à l'association départementale. Et puis, sur le PIGEX, nous sommes 4 bénévoles qui nous occupons des litiges. Alors, c'est formidable, on a la parité, on a 2 femmes et 2 hommes. Nous sommes actifs dans 2 permanences à Ferney, les vendredis après-midi et Saint-Genis les lundis après-midi. Bon, pour l'instant, évidemment, compte tenu de la pandémie, elles sont fermées. Donc, on les remplace par des rendez-vous par téléphone, un vendredi après-midi tous les 15 jours. Et les gens, maintenant, peuvent porter leur litige en direct sur leur site national. Il y a un site dédié, comme vous pouvez porter une réclamation un peu partout ou une médiation. Vous pouvez aussi lancer un appel à UFC que choisir par ce biais-là. Et... Bon, qu'est-ce que ça nous apporte ? Ben, financièrement, ça ne nous apporte rien, hein, c'est du bénévolat. Par contre, ça nous fait découvrir les pièges et procédures, parfois peu orthodoxes, des entreprises, hein, et des professionnels, hein, souvent au détriment des consommateurs d'ailleurs. Et puis, on m'avait posé une question, là, j'ai reçu, comment faire pour que ça soit plus utile ? Moi, je dirais comment faire pour que ça soit moins utile, parce que cela voudrait dire que s'il y a de moins en moins de consommateurs qui ont des problèmes, eh bien, on aura de moins en moins de difficultés pour les résoudre. Mais malheureusement, ce n'est pas encore aujourd'hui la veille. Donc voilà, et sur le département de l'Ain, nous sommes 3 bénévoles à travailler sur les litiges en ligne, c'est-à-dire en direct sur Internet. Et bien entendu, nous avons le support juridique national de l'UFC que choisir, qui a son siège à Paris. Voilà, globalement, hein, et très rapidement, bien sûr.
Alors peut-être l'occasion d'avoir aussi un petit point de vue de Monsieur Alain Giraud sur... Alors, vous avez une vision, alors vous êtes un acteur de la vie locale, mais peut-être pas forcément, vous avez un passif associatif, mais... Vous êtes plutôt indépendant là-dessus. Qu'est-ce que vous avez comme point de vue sur toute cette agitation associative ? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas ?
Je n'ai pas compris la question, là. Ça a des craquements, alors.
Oui, est-ce que vous m'entendez, là ?
Oui, là, je vous entends, mais par moments, il y a des craquements et ça...
D'accord, ouais, c'est possible. Est-ce que, voilà votre point de vue sur l'agitation associative, vous en avez fait partie, vous avez pris une certaine distance, qu'est-ce que vous pensez de ce mode d'action, de réunion, de la voix citoyenne? Est-ce que vous trouvez que c'est efficace ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres moyens d'action et vous, comment vous êtes approprié cet outil-là aujourd'hui?
Comment vous voulez dire, j'ai pris du recul, j'ai pas bien saisi, vous m'excuserez, mais j'ai pas bien saisi la question.
Non, c'est une question à Alain Giraud.
Pardon, excusez-moi. Ah oui, donc oui, moi j'admire les gens comme monsieur qui vient nous expliquer là, le travail réalisé au niveau de que choisir, parce que là il faut faire des permanences, il faut du temps, il faut travailler sur les dossiers. Et c'est fabuleux. Bon, maintenant, on note quand même qu'il n'y a pas énormément de monde qui s'investit comme ça. Et c'est un peu la problématique, comment intéresser tout le monde à tous ces problèmes d'écologie qui ne sont pas toujours bien, agréables à traiter, parce que souvent, on est devant des problèmes, on n'est pas devant des projets qui font rêver, quoi. Hein. Et ça, c'est la difficulté. Maintenant, c'est un peu ma position à moi. C'est de dire au niveau de l'écologie, c'est la vie, et puis la vie, ben, c'est la relation entre les hommes. C'est-à-dire qu'il faut. Ce qui nous manque aujourd'hui, et ce à quoi j'aime bien travailler finalement, c'est les relations entre les hommes. Ça commence déjà par se dire bonjour le matin dans la rue, hein, parce que quand on ne se dit pas bonjour, puis qu'un jour on se trouve devant des poubelles ou devant une coupure d'eau, ben. Ça se passe pas très bien. Après, il y a les gens qui pleurent, il y a les gens là. Donc, il faut commencer par se dire bonjour, se parler, trouver tout plein de comment dire, de favoriser toutes les situations pendant lesquelles on se regroupe et on échange. Et voilà, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et moi, c'est un peu ce que j'ai toujours fait dans mon boulot et dans mes postes que j'ai eus jusqu'à maintenant et que j'espère surtout continuer à valoriser maintenant. Donc, c'est ça. Et après, au niveau de l'environnement, moi, ce que j'ai vu, par exemple, j'ai entendu parler tout à l'heure de l'eau à Divonne, le dossier de l'eau, je le connaissais bien, et aussi bien le dossier de l'embouteillage que le dossier de l'eau au Pays d'Aix, c'est des pollutions et aussi des ordures. Donc, d'une manière générale, la population n'a pas assez de connaissances sur ces dossiers. Donc, il y a eu les réactions de stopper, par exemple, le projet d'embouteillage qui était bienvenu parce que c'était un projet complètement pourri. Mais quand le projet d'embouteillage a été stoppé, ben, tout le monde après est rentré chez soi, content. Et puis l'eau, elle continue de couler dans un tuyau qui est plus ou moins, on ne sait pas s'il est géré, hein, un forage, etc. Et puis, jour, on aura besoin de cette eau, ben, on ne sait pas si elle sera polluée ou non. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui se passionne sur ce dossier, après coup, à part le petit coup d'éclat. Voilà. Et pareil sur les ordures, et pareil sur l'histoire de la pollution de l'eau en général. On voit qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, je vois autour de moi, il y a pas mal de situations assez incroyables. Les eaux qui s'en vont à droite, à gauche, les trous qu'on creuse pour évacuer les eaux pluviales qui sont polluées et qui vont aller dans les nappes phréatiques, mais ça, tout le monde a peur d'y réfléchir, etc. Donc, sur tous ces dossiers, ce qui est intéressant, c'est de plonger dedans et puis de les rendre un peu vivants, pas trop passionnés pour que tout le monde suive et puis qu'on arrive à un petit peu à s'intéresser, à trouver des petites solutions au départ pour se passionner et puis rester dans le dossier, quoi. Il faut... C'est pas facile, hein, quand on comprend rien, quand on n'a pas les informations. Comme ça, la population, c'est pas facile à s'intéresser à tous ces sujets d'écologie, des vies en commun, quand on n'a pas les données ou quand on n'a pas les groupes assez passionnés, assez ouverts pour échanger et essayer de trouver des trucs sympas et des solutions, quoi.
Qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme conseil, en fait, pour que les gens revoient leur rapport à l'environnement et comprennent en fait, la nécessité de prendre soin de cet environnement, de prendre soin du Jura, de prendre soin de la nature, de cette planète sur laquelle on vit?
Ouais. Nous, on est dans le pays de Voltaire. Hein, donc, Voltaire, c'est la connaissance. Hein, et déjà, connaître, apprendre, connaître beaucoup de choses, c'est important. Moi, je n'arrête pas de chercher, d'essayer de comprendre, de découvrir, de lire des documents, etc. Et ça peut passionner des gens, ça, déjà. Et puis, voilà, c'est la connaissance qui est importante. Après, autrement, ben, on peut se perdre dans des jugements ou dans des appréciations qui sont hors sujet ou sur lesquelles on va perdre notre temps. Et pour échanger comme il faut bien connaître les dossiers. Donc, il faut trouver, il faut que les échanges. Moi, je trouve qu'au pays d'Aix, on n'a pas tellement de bibliothèques locales, on n'a pas de fonds local de connaissances. Quand on cherche, il y a plein de gens, moi, qui me contactent parce que je m'intéresse un peu à tout dans la nature. Ils me disent, ah, tiens, Alain, c'est où est-ce qu'on peut trouver l'information sur le réseau d'eau, sur telle source, telle rivière, sur tel bon, ben, voilà, il faut aller chercher un peu sur Internet. Il y a des trucs, on ne sait pas trop ce qu'on trouve, si c'est sérieux ou pas. Et puis après, voilà, il n'y a pas de... Moi, je pense qu'au niveau de la connaissance, on a beaucoup à faire. Maintenant, on est complètement submergé par les informations multiples. Et puis, voilà, la connaissance, et puis à travers la connaissance, l'appréciation de ce qu'était la nature. Autrefois, comment elle était vécue, pourquoi les paysages sont comme ça et pas autrement. Comment ils ont évolué, c'est d'avoir des vrais outils d'appréciation sur l'évolution. Par exemple, maintenant, on met tout dans le réchauffement climatique. Alors moi, je n'y prends pas le réchauffement climatique, hein, je ne suis pas un climato-sceptique. Enfin, maintenant, on y met n'importe quoi dans le réchauffement climatique. Il faut savoir apprécier ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est grave et pas grave, ce qui est réel et pas réel. Ça, c'est important pour réagir au moment où il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe autour de nous, je crois.
Merci. Michel, monsieur Amiot, est-ce que vous voulez réagir peut-être à ça, sur les fonds de connaissances, où est-ce qu'on peut trouver les informations qui vont permettre, pour les habitants, qui vont permettre de mieux connaître leur territoire?
Moi, je pourrais intervenir éventuellement sur un point, là, enfin sur plusieurs points, si vous le permettez, Henri Pinet.
Alors oui, allez-y, puis après on pourra prendre la réponse de monsieur Amiot.
La réponse de M. Alliot, non, je ne sais pas, non, c'était la reprise de M. Giroud, là, je voulais, qui parle avec très, très justement concernant l'environnement. Malgré tout, moi, je suis quand même assez optimiste, entre guillemets. Quand on prend le pays d'Aix, alors évidemment, c'est un endroit un peu particulier parce que la population évolue vite, hein, on a pratiquement 100 000 habitants maintenant. Mais quand on regarde, on a une chance quand même d'avoir un seul élément, c'est la CRPG qui a la responsabilité des déchets et de la gestion de l'eau. Donc déjà, on n'a pas multiples interlocuteurs. Donc déjà, ça peut nous faciliter la vie. D'autre part, quand je regarde le pays d'Aix, il y a quand même des évolutions qui sont raisonnables. Je ne dirais pas que ce n'est pas parfait, c'est évident, ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'améliorations à voir, y compris les habitants qui doivent améliorer leur comportement. Mais quand on regarde, on a des ramassages d'ordures qui sont pour l'instant assez efficaces. On a un tri, on peut discuter ce qu'on veut. On envoie les ordures ménagères à Bellegarde, plus par train, mais par camion. Mais enfin bon, on fait comme on peut. Mais on n'a pas de décharge en plein air comme on trouve dans certains endroits en France. C'est assez bien structuré. Il y a des déchetteries qui sont assez bien structurées. Bon, évidemment, tout peut s'améliorer, c'est clair. Mais je crois qu'on est quand même sur une bonne voie. Et on est proche d'un canton comme Genève qui traite les eaux usées, qui a une maîtrise assez correcte des choses. Donc, on ne part pas de rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la tête et oublier tout. Mais je pense quand même qu'il y a des choses qui sont positives. Et il faut essayer encore de les améliorer, ça j'en suis certain. Et justement, on a un interlocuteur, c'est la CAPG, donc c'est là qu'il faut que les associations travaillent, essayent de trouver des solutions s'il y a des choses qui ne vont pas, et engager le dialogue, ça c'est vraiment important, y compris d'ailleurs pour le Jura et la gestion de la montagne, ça c'est clair.
Merci, donc on va redonner la parole à M. Amiot.
Donc oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Pinet. Je pense que depuis qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés, et notamment au niveau de l'information, si on va sur le site de la Régie des eaux GECIED, eh bien, il y a beaucoup d'informations. Il suffit que la population s'y rende. Et donc, on a quand même une gestion qui est beaucoup plus transparente qu'autrefois où c'était des délégations de services publics, que ce soit au niveau des rapports techniques et des rapports financiers. Donc, il y a eu quand même une nette amélioration. Pour ce qui est des déchets, c'est pareil. Il y a quand même une ressourcerie qui va être mise en place donc courant 2021 donc au niveau d'Ornay. Là aussi, c'est un progrès.
Juste un petit mot, cette ressourcerie, alors parce que c'est un nouveau concept, on voudrait transformer les déchetteries en ressourcerie, centre de recyclage, un peu comme les... Alors moi, je pense au Ripper Café des Colibris. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une initiative citoyenne? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'AGLO qui s'est approprié le concept puis qui a renommé une déchetterie en ressourcerie? Ou est-ce que c'est vraiment issu d'une prise de conscience profonde des autorités publiques pour vraiment transformer une déchetterie en ressourcerie?
Oui, en fait, c'est pas transformé. Il y aura la déchetterie, puis à côté, la ressourcerie. Donc, il y avait déjà la GCR qui fonctionnait à Saint-Genis, qui... recycler un peu du matériel. L'intérêt de la ressourcerie à Ornay, c'est qu'il va y avoir réparation des appareils électroménagers ou autres. Et en plus, ce sont des gens en insertion qui vont être employés. Donc, c'est vraiment un projet très intéressant. Donc, nous, on a toujours défendu ce concept. Et c'est vrai que l'AGLO a bien avancé là-dessus.
Merci. Et nous avions Vinciane de Zero Waste qui voulait...
Oui, alors moi, je voulais réagir pour juste faire une petite distinction en disant, effectivement, il y a le tri des déchets, il y a tout le travail de la CAPG, tout le travail pédagogique autour du tri des déchets qui se fait et qui se fait bien, je pense. Mais l'idée de Zero Waste, c'est de prendre le problème un peu d'un autre côté, c'est de se dire... Plutôt que de trier des déchets qui n'est quelque part qu'un pansement, mais qui est indispensable, qui est nécessaire, évidemment, il y a peut-être la question à se poser de la réduction des déchets à la base. Donc, le meilleur déchet est évidemment celui qu'on ne produit pas. Et puis, pour ce faire, c'est vrai que nous, on aime bien s'inspirer d'un guide qui s'appelle le guide des 5 R, en fait, qui est l'idée de refuser, réduire, réemployer, recycler et redonner à la terre. Donc refuser, c'est-à-dire refuser les produits suremballés, essayer de choisir les produits qui sont moins emballés, refuser les échantillons qu'on nous donne, refuser les touillettes dont on n'a pas besoin. Voilà, si vous ouvrez votre poubelle, vous regardez ce qu'il y a dedans et puis vous verrez tout ce que vous auriez peut-être pu éviter, tous les suremballages que vous auriez pu éviter. Réduire en achetant mieux et moins, peut-être en achetant plus durable, en se demandant vraiment ce dont on a besoin et ce qui est inutile. Voyons ce qu'on peut mutualiser aussi, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir chacun, sa remorque, on peut peut-être la mutualiser avec un voisin. Réemployer, donc le troisième R, vous parliez très justement des ressourceries de la GSCR, donc c'est vraiment redonner une nouvelle vie aux objets, de prolonger la durée de vie des objets, et puis recycler pour ce qu'on n'a pas pu éviter, évidemment, comme déchets, et redonner à la terre. Donc le compostage, le lombricompostage, je sais bien que la CAPG fait des formations à offrir ou offrira peut-être encore des composteurs et des lombricomposteurs. Je pense que les déchets alimentaires représentent 30% de nos poubelles quand même.
Juste pour compléter, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de bien prendre conscience que le déchet, il a un double impact. Il a un impact en amont, il a un impact en aval. Pour produire du plastique, par exemple, ou du verre, ou tout ce qu'on veut, il faut du pétrole si c'est du plastique, du transport... il faut chauffer, il faut de l'eau, etc. Donc ça, c'est déjà... Le bilan carbone est extrêmement lourd. Et ensuite, le recyclage, c'est aussi un bilan carbone non négligeable. Il va falloir transporter, par exemple, jusqu'au sidéphage. Il va falloir laver, il va falloir chauffer, il va falloir rajouter à nouveau des matières premières. Donc il y a vraiment une prise de... En France, je pense qu'on est beaucoup axé sur le recyclage. C'est une bonne chose. Mais il faut vraiment, et là, il faut qu'on aille très vite parce qu'il y a urgence. Le recyclage, c'est un pansement un peu sur une jambe de bois. Donc, il faut vraiment qu'on monte au-dessus, qu'on dise on réduit.
Alors, j'ai juste une petite question pour tout le monde parce qu'on a Alors on voit quand même dans le Pays de Gex qu'il y a certains problèmes par rapport à la gestion des déchets, justement, où il y a les containers semi-enterrés, il y a pas mal, on trouve pas mal de poubelles à côté, puisque les gens n'ont pas envie de payer, enfin essayent de ne pas payer justement leurs déchets. Comment vous verriez-vous peut-être la sensibilisation auprès des gens pour qu'ils trient mieux leurs déchets, ou pour qu'ils évitent d'en faire trop, ou pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils sont en train de faire en jetant leurs poubelles à côté et en générant autant de déchets? Et c'est une question à la volée.
Je dois dire que c'est un problème majeur, en effet, parce que toutes les communes doivent donc ramasser les déchets qui sont à côté des points verts, etc. Donc c'est un problème qui est difficile à résoudre. Je veux dire, je ne sais pas, au niveau peut-être des journaux, au niveau de... C'est difficile de prendre conscience aux gens de ne pas laisser traîner leurs déchets comme ça d'une façon inadmissible. Je voudrais revenir encore une minute sur les cartons. Vous savez qu'il y a un organisme qui s'appelle maintenant Carton Vert, parce qu'il faut quand même savoir que les cartons que l'on met dans les points verts ou qu'on dépose dans les déchetteries, eh bien, il y a actuellement en France, il y a 90% des cartons qui partent en Asie et qui servent. Donc là, il faut les transporter. Et donc, il y a un organisme qui se monte, qui s'appelle Carton Vert, parce que les cartons, on peut, en effet, surtout s'ils ne sont pas souillés, parce que quand ils sont souillés, ça pose des problèmes, mais qui peuvent être réutilisés en tant que carton. Et ça, c'est vraiment du recyclage, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Moi, j'ai peut-être une petite question à Monsieur Giraud. Savoir que vous devez, j'imagine que vous avez des familles qui viennent avec vous profiter du Jura, envie de voir des grands tétras et des lynx. Est-ce que récemment vous avez senti qu'il y avait plus de civisme ou plus de prise de conscience du respect de l'environnement et justement peut-être que ce travail de s'occuper de ces déchets et donc de s'occuper de préserver de façon citoyenne le monde dans lequel on vit, est-ce que vous avez senti une différence récemment ou pas du tout?
Moi, autour de moi, ce que je sens, c'est surtout qu'il y a deux mondes. Aujourd'hui, il y a la ménagère qui trie consciencieusement tous ses déchets avec les discours qu'on vient d'entendre de madame. Et puis, il y a un autre monde qui se jette sur le bord des routes. Par exemple, on voit maintenant de plus en plus de déchets sur le talus, sur les bords des routes. Et ça fait mal au cœur, quoi, quand on voit tous ces déchets qui volent. Il y a une espèce maintenant au niveau de la population, il y a des gens qui deviennent un peu agressifs, c'est-à-dire vis-à-vis du monde général qui ne s'y retrouvent plus, et une agressivité qui fait qu'on retrouve dans leur comportement des déchets spontanés comme ça qu'on ne voyait plus. Parce que moi, j'ai connu les années 70-80 où il y avait beaucoup d'ordures dans la nature, hein, énormément, et puis après on a ramassé. On a ramassé de moins en moins. Il y a eu dans les années 2000, ça allait très bien. Maintenant, il y a le long des routes, par exemple, des retours de frontaliers. Carrément, il y a tous les mètres, il y a une bouteille de coca, une bouteille de plastique, etc. Là, il y a quand même un problème. Et moi, je pense que ces gens qui jettent, c'est ceux qui trouvent que, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on parlait des ressourceries, des choses comme ça. Donc, ça, ça doit se gérer, bien sûr, mais. Il faudrait trouver un système pour que ce soit un peu plus fun, quoi, parce que les gens qui ont du mal pour gagner leur vie ou qui sont pas heureux, ils s'en foutent de tout ça. Et puis à la fin, ils lâchent, quoi. En fait, ils se découragent et ils lâchent. Moi, je pense que c'est quand même le lien social qui peut... Parce qu'après, une fois que quand les gens sont ensemble et tout ça, ils redeviennent un peu sociables, un peu civilisés, quoi, en fait, hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui ne parlent plus, et ceux-là, ils s'en foutent, ils jettent leurs ordures sur le côté, et puis ils regardent la maman qui trie en rigolant. Hein.
Merci. Vinciane, vous voulez réagir?
Oui, moi, ce qui me rend quand même optimiste, je pense qu'au-delà de la maman qui trie et qui fait bien, ou qui réduit ses déchets encore mieux, je pense que les jeunes sont quand même de plus en plus sensibilisés, ils sont ouverts à ce discours, ils sont réceptifs, ils sont... C'est parfois les jeunes qui bousculent leurs parents, d'ailleurs. Je pense qu'au niveau de l'éducation, ça bouge quand même. Le discours change. La limitation des déchets, elle devient presque à la mode, en fait.
Ouais. Oui, puis je pense aussi que si on trouve plus de déchets dans la nature, peut-être que la problématique, elle est différente. C'est aussi parce qu'on a beaucoup plus d'emballages. Et que donc, du coup, on se retrouve à en jeter. Aujourd'hui, on en recycle beaucoup plus qu'avant. Mais quand on regarde les chiffres, quand on regarde, par exemple, la quantité de plastique utilisé dans la chaîne alimentaire, c'est affolant. Donc, en fait, on peut dire on va recycler plus, on va gérer plus. À partir du moment où on alimente la machine, on ne va pas s'en sortir. Donc, bien sûr, il faut gérer. Et bien sûr, pour les municipalités et les citoyens, avoir des villes et des territoires sales, c'est catastrophique, ne serait-ce qu'au niveau électoral. Mais ça veut dire que, bien sûr, il faut gérer tout ça. Mais derrière, il faut surtout être dans une démarche où on va chercher à réduire. Parce qu'on peut pas... Il faut aussi bien réfléchir que la gestion des déchets, c'est très cher. Et qu'il y a des acteurs derrière. Enfin, c'est aussi un gros marché. Donc, en tant que citoyen, on doit aussi prendre conscience de ça. Je pense que c'est probablement quelque chose qui résonne auprès du FC aussi. C'est-à-dire, et ce que disait aussi Vinciane précédemment, on est consommateur. Donc, réfléchissons bien aux gestes et à l'impact de nos gestes.
Monsieur Pinet, est-ce que vous voulez répondre à ça ?
C'est à moi que vous vous adressez ?
Oui. Est-ce que vous voulez répondre à ça ?
Oui, alors, oui, effectivement, bon, disons bien sûr, c'est intéressant. Il est clair qu'il faudrait diminuer le nombre de déchets. Ça, c'est clair. Les trier, c'est une chose. Les multiplier, c'en est une mauvaise. Hein, ça, c'est évident. Maintenant, dire que les enfants interpellent leurs parents, bon, moi, j'irai pas jusque-là, hein, s'il vous plaît, parce que c'est mieux l'occasion d'interpeller plutôt les enfants ou les jeunes, les adolescents, qui font pas tellement attention. Mais il y a deux choses qui peuvent être intéressantes. Vous allez faire visiter les jeunes, c'est l'éducation qu'il faut reprendre, effectivement, à la base. Vous allez faire visiter les stations d'épuration aux jeunes, et vous verrez des fois des bennes remplies de mégots de cigarettes qui arrivent dans les eaux usées. Vous verrez aussi, de toute manière, tous dernièrement, depuis une année, dans les villes, maintenant, on ramasse des masques. Alors là, bon, ben, c'est vrai que ce n'est pas que des personnes âgées, il y a des personnes très jeunes non plus. Vous voyez, ça, c'est vraiment l'éducation qui passe. Il faut passer par l'éducation et apprendre aux gens à éviter les déchets et diminuer les déchets. Les emballages, je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit tout à l'heure, il faudrait les diminuer, il faudrait les éviter. Malheureusement, maintenant, les techniques nouvelles, les techniques modernes de commande par Internet et tout ça multiplient les cartons et les emballages, et on ne va pas y échapper à ça. Donc, il faut pouvoir le maîtriser. On peut éviter de le faire, mais ça va être difficile pour la nouvelle société d'éviter ça. Par contre, il faut s'organiser. Donc, il faut essayer de diminuer, faire un effort et passer par l'éducation. Ça, c'est vraiment primordial, et commencer dès le plus jeune âge et continuer à l'adolescence et jusqu'à la majorité. Parce que là, il y a aussi quelques efforts à faire.
Parce que je me souviens, j'ai grandi à Cergy, et on allait tout le temps jouer dans la nature. Et en fait, à force de jouer dans la nature, d'être dans les champs, de grimper dans les arbres, de faire des cabanes, de faire toutes ces choses-là, en fait, on se rendait bien compte qu'il ne fallait pas jeter nos paquets de gâteaux, jeter nos trucs. À chaque fois qu'on avait des déchets, à chaque fois qu'on voyait des déchets, on les prenait, on les ramenait. Et,
ben oui.
Et est-ce que c'est pas finalement ce rapport à la nature, le fait de dire que l'environnement, donc les champs, les forêts, etc., les endroits où on va s'amuser quand on est gamin, et ben c'est comme un pote, c'est comme un ami où on va pas le maltraiter parce que c'est quelque chose dans lequel on vit, c'est quelque chose avec qui on interagit, etc. Et est-ce qu'il faut pas justement rétablir ce lien-là pour avoir une meilleure manière d'interagir avec Monsieur Amiot?
Bien sûr. Oui, moi je suis d'accord avec votre proposition.
Donc au niveau de la communication, je crois qu'il y a déjà quand même un effort qui est fait au niveau du Cidéphage, puisqu'il y a des sessions qui sont organisées dans différentes écoles. Donc voilà peut-être un moyen aussi d'améliorer le civisme des futurs habitants du Pays de Gex, des jeunes. Je pense que c'est un bon moyen, donc éducation, éduquer. Et puis surtout, comme on l'a déjà dit, donc il y a quand même aussi un problème au niveau gouvernemental. au niveau des grandes sociétés pour que justement l'emballage individuel, le multi-emballage, carton, puis après il y a encore des petits paquets. Donc là, il y a quand même une action aussi, pas uniquement locale, mais une action engagée au niveau des firmes, de différentes firmes, voilà.
Alors peut-être pour repositionner, on parle d'éducation et on parle en même temps de transition et en certaines formes d'urgence quand même, quelque part. Est-ce qu'on a, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps encore d'éduquer nos enfants. Donc de manière, voilà, est-ce que vous pensez qu'on a, on a encore le temps pour tout ça, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on va être obligé de faire et qu'on sent frémir et qu'il faut encourager aussi bien dans le domaine associatif qu'au niveau politique? Comment est-ce qu'on peut se saisir de ça pour, parce qu'on n'a plus trop le temps, quoi.
Ouais. Moi, je veux bien apporter un élément de réponse là-dessus. Donc, par exemple, nous, ce qu'on croit chez Zero Waste, c'est on est dans le plaidoyer. Donc, le plaidoyer, il doit se faire, c'est la conviction des citoyens. C'est la conviction des institutions et des élus, sachant que leur conviction, elle vient aussi des votes potentiels. Et puis aussi, c'est, et ça, ce n'est pas notre rôle groupe local, mais c'est notre rôle, enfin, c'est le rôle de notre antenne nationale, c'est auprès, c'est faire du plaidoyer auprès des institutions. Par exemple, Zero Waste France était au Parlement, auditionné au Parlement il y a deux semaines au sujet des masques jetables, par exemple. Et puis, c'est aussi, quand il faut, on va porter en justice. Donc, il y a eu des cas. Il y a eu un cas qui a été fait avec l'aide des groupes locaux Zero Waste, de dire McDonald's, qui prétend que vous triez vos poubelles, et on parle uniquement de la gestion, qui vous fait mettre le plastique d'un côté et le carton de l'autre, alors que derrière, en fait, il y a un seul sac. Ça, c'est du mensonge. C'est illégal. Donc, il y a eu un procès qui a été gagné. Et donc, McDonald's, maintenant, va réviser sa pratique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'urgence... Pour moi, elle est évidente. Donc, il faut, on n'est pas ou bien, c'est et. Donc, c'est et les citoyens, et les enfants, et les acteurs, et les institutions locales, régionales, nationales, européennes, internationales. Donc, il faut, c'est une bataille. Donc, je pense que si on veut gagner cette bataille-là, tout compte. Et puis, pour nous, c'est l'idée que chaque pas compte parce que, en fait, le début est ce qu'il y a de plus difficile. Et, c'est de se dire, si on prend un premier pas, que ce soit pour une meilleure gestion des eaux, pour réduire ses déchets, les recycler, ça devrait déjà être fait depuis longtemps, mais c'est de dire, ce premier pas, il va nous emmener plus loin.
Alors peut-être petite question sur cette participation du monde associatif qui contribue à... Alors voilà, elle porte des affaires devant les tribunaux. Ça veut bien dire que quelque part, il y a besoin d'acteurs de contre-pouvoir qui est représenté par le monde associatif. Et est-ce que, alors Monsieur Amiot et peut-être Monsieur Pinet, est-ce qu'à travers la représentation du monde associatif au sein de la CC, enfin de l'AGLO, est-ce que voilà, vous avez l'impression que vous devez jouer ce rôle, c'est-à-dire que vous êtes un contre-pouvoir et qu'on vous attend là? Ou au contraire, est-ce que vous avez vu qu'il y avait, de la part des autorités, l'envie d'aller à la rencontre des citoyens à travers vos associations? Est-ce que c'est du « ils sont contents que vous soyez là » ou au contraire, ils se disent « tiens mince, on a un ennemi potentiel ». Mais c'est tout l'enjeu de la démocratie actuelle. Hein. Est-ce que... Ouais. Monsieur Amiot, peut-être?
Oui, moi, je pense que donc ils sont contents qu'on soit là. Mais quelquefois, quand on fait quelques remarques, on est reçu... donc on est accueilli dans ces comités qui sont consultatifs, donc en fait on n'a pas le droit de faire beaucoup de politique, et j'en veux pour preuve ma dernière intervention jeudi dernier au comité technique consultatif au sujet de la consommation de la future consommation d'eau par le projet Open. Donc on devait discuter de la convention justement qui serait signée entre l'AGLO et le IF à Londres et puis la régie. Open, dans les prévisions, devrait consommer 346 mètres cubes par jour, 6 jours sur 7. Donc j'ai fait un petit calcul. Et donc, j'ai donné ça lors de cette réunion. J'ai fait un petit calcul, ce qui nous donne plus de 100 000. Qui nous donne donc exactement donc 346 multiplié par 365 moins 52 égale 108 990 000 mètres cubes, donc 100 000 mètres cubes. Et si on prend...
Attention à faire du fact-checking en direct pour voir si c'est vraiment ça.
Et si on prend donc la consommation moyenne de 120 mètres cubes, ça représente quand même une consommation de plus de 900 foyers. Donc, moi, je me suis posé la question. Je n'ai pas eu de réponse parce que même le CTC, la régie ne pouvait pas répondre. Est-ce que dans l'accord du permis de construire de cet ensemble commercial, est-ce que la consommation d'eau a été prise en compte? Donc, je n'ai pas de réponse. Donc, c'est énorme. Et on se pose la question, est-ce que ce centre, il est vraiment indispensable aux habitants du Pays de Gex?
Est-ce que vous pouvez juste nous dire d'où vient l'eau dans le Pays de Gex, en fait, l'eau qui coule du robinet, d'où ça vient, quel est son circuit?
Alors, donc, justement, le problème, c'est qu'on risque une pénurie dans les années qui vont venir. Actuellement, donc, on a l'eau, bien sûr, qui vient du Jura, des différentes nappes phréatiques qui sont dans la plaine, mais on est déjà obligé d'acheter de l'eau en Suisse, au site C, de l'eau qui est pompée dans l'Léman.
Donc le site C, c'est l'équivalent de la communauté, mais dans le Terre Sainte.
Dans le Vaud, oui, dans le pays.
Ouais, c'est Terre Sainte, c'est juste à côté de Divonne.
C'est ça.
Et on leur achète de l'eau quand nous, on n'en a pas assez.
On leur achète tout le temps, oui. Oui, maintenant, on achète de l'eau. Et cette eau qu'on achète, dans les années, il y a eu un schéma directeur d'alimentation en eau potable. Dans les années à venir, ça ne sera pas suffisant. Donc actuellement, on va augmenter les prélèvements d'eau à Pougny. Actuellement, donc, il y a des forages à Pougny qui alimentent seulement 3 ou 4 villages. Et ce qu'on veut faire, c'est pomper beaucoup plus pour alimenter jusqu'à Saint-Genis pour essayer de limiter cette pénurie d'eau. Alors donc, à côté de ces grands travaux qui vont nous coûter cher, des investissements, on constate qu'il y a encore des projets qui consomment beaucoup d'eau, qui sont inutiles pour le Pays de Gex, qui consomment de la terre agricole. Donc moi, j'ai tenu à faire cette remarque qui est un peu politique, mais bon, ben voilà. Et donc, ces remarques vont être dans le compte-rendu du CTC.
Monsieur Pinet, est-ce que vous avez peut-être un commentaire de votre côté sur cette expérience dans la représentation du monde associatif face au monde politique? Enfin, je dis face ou avec, justement, c'est la question.
Oui, bon, je peux faire... Oui, c'est vrai que c'est consultatif. Donc, effectivement, le problème, c'est d'être écouté. Le problème, c'est que si on est plusieurs représentants des consommateurs, pour essayer de porter un message, il faut s'entendre sur des projets. Parce qu'autrement, si on y va en nombre dispersé, il est évident qu'on a peu d'efficacité. Pour être efficace dans un système, c'est qu'il faut qu'on soit persuadé que ce qui est en train de se faire n'est pas bon ou ce qui devrait se faire est intéressant et porter un projet et porter ce projet auprès des responsables. Et évidemment, après, si on est persuadé que le projet est valable, à ce moment-là, on a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à porter le projet. Hein. Il y a les médias qui sont là pour ça, il y a des discussions qui peuvent se faire. Le problème, c'est que souvent, on est un peu en ordre dispersé, et puis les réunions, il y en a une par an, c'est pas beaucoup. Alors, il faut pouvoir être consulté au moment où il y a des changements, ce qui est en principe le cas. Normalement, on devrait être consulté. Maintenant, pour le cas particulier du centre commercial là, de Open, ça fait maintenant, je crois, 10 ans que ce projet est sur la table. Bon, il a eu un permis de construire. Je ne sais pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants, mais maintenant, le Pays de Gex, je crois qu'il est saturé de commerce, c'est clair. Je pense qu'il y en aura certainement plus d'autres, encore qu'il y a des travaux un peu à droite à gauche, hein, qui se font même à Divonne. Donc, c'est difficile à gérer et à voir comment les choses se passent. C'est le cas de dire qu'il fait couler beaucoup d'eau sous les ponts, le projet Open. Mais c'est vrai qu'on devrait regarder les consommations d'eau partout. Et puis, effectivement, les travaux sur Pougny, c'est la nappe phréatique du Rhône, elle est intéressante, elle était déjà détectée avant 2010. Il y a des travaux qui étaient prévus, bon, ils n'ont pas été faits, ben, parce que c'est des coûts assez conséquents. Alors donc, c'est des choses qui doivent être suivies dans les années qui viennent, c'est certain.
Est-ce que, bon, on a aujourd'hui là, un projet qui est comparable, qui est pas comparable, mais l'investissement par rapport à l'aménagement du rond-point Porte de France à Saint-Genis, où il y a un projet financé par notamment le département et la contribution genevoise qui vise à multiplier le trafic de voitures. Je retiens ça parce que c'est mon angle, mais de multiplier le trafic de véhicules de 28 000 à 40 000 jours. Donc, dans le cadre d'une perspective de neutralité carbone, on est peut-être un peu en conflit avec une pérennité de notre territoire. On a l'impression dans la discussion qu'on a des institutions et des façons de collaborer qui sont complètement en décalage avec ce que peut porter le milieu associatif, notamment Zéro Waste dans son urgence. Est-ce que on n'est pas victime d'un est-ce qu'on subit pas quelque part un système institutionnel qui est plus du tout dessiné pour être pour parler aux citoyens et est-ce qu'il faut pas de manière urgente réinventer des mécanismes sans avoir à tomber dans des procès pour faire avancer les choses ni comme stop embouteillage d'Yvonne est le dernier exemple qui a marché. Est-ce qu'il faut multiplier ce genre d'initiative ou inventer des nouveaux médias comme des radios internet?
Multiplier les initiatives, en fait, c'est un problème qui est délicat parce que le bassin de travail, c'est le bassin genevois. Malheureusement, tous les gens doivent passer, beaucoup de gens passent la frontière, les travaux, les transports publics répondent pas trop à la demande, il y a des gens qui viennent de loin, la voie ferrée, elle a disparu, on peut pas la remettre en route, les trains qui arrivent de Bellegarde à Genève, c'est pas très performant non plus, les gens tous les matins sont bloqués dans des ronds-points ou dans des queues de frontières qui maintenant deviennent de plus en plus conséquents. Donc c'est vrai qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là. Fluidifier la circulation et éviter la circulation automobile, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas facile à faire. Par contre, diminuer la pollution des véhicules, oui, ça c'est une approche à faire. Mais multiplier les travaux, C'est toujours compliqué. Mais on ne peut pas laisser les choses se dérouler comme ça. Il y a de plus en plus de monde sur le Pays d'Aix. Il y a de plus en plus de monde, donc il y a de plus en plus d'emplois sur le Pays d'Aix. Il y a de plus en plus d'emplois sur le canton de Genève actuellement, même si la situation est délicate. Donc il y aura de plus en plus de monde. Donc il faut des travaux publics efficaces. Ça, il n'y en a pas beaucoup. On ne transporte pas beaucoup de monde. Et donc les gens doivent utiliser un véhicule, le vélo, bon, bah, c'est bien, mais ce n'est pas tout le monde qui peut aller au travail en vélo, surtout quand il y a beaucoup de kilomètres à faire. Donc, il faut trouver des solutions. Il n'y a pas de remède miracle, hein, je crois.
Et alors, c'est exactement la question que je voulais poser. Est-ce que vous avez connaissance, en fait, d'initiatives positives? C'est-à-dire que là, on a parlé de la gestion des déchets, on a parlé de l'eau, on a parlé du transport, etc. Est-ce que vous avez connaissance, en fait, collectivement, donc je pose la question à tout le monde, de projets qui vous semblent être sur la bonne voie, que ce soit par une commune, que ce soit peut-être, je ne sais pas, des jardins partagés pour redonner un peu conscience du travail de la terre, des choses comme ça, des circuits courts, des projets locaux de production de nourriture, ou que ce soit de... Ouais, voilà. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez de connaissance de ces choses-là, Vinciane?
Bah, je pense que sur le Pays d'Aix, il y a certaines initiatives quand même d'achats groupés. Je ne sais pas si voilà, il y a la ruche qui dit oui, il y a les casiers gourmands, il y a les paniers gourmands aussi, donc où on rassemble des producteurs locaux pour pouvoir faire ces achats-là. Donc on sait où on achète, à qui on achète, à qui va l'argent, et on réduit nos déchets par ailleurs.
On a commencé à élaborer une carte qui est accessible via notre groupe Facebook notre page Facebook, pardon, où vous allez pouvoir trouver les commerçants soit qui font du vrac, soit chez lesquels vous pouvez aller avec vos, vos propres contenants, notamment des restaurateurs ou des choses comme ça, où vous pouvez acheter vraiment dans la réduction des déchets. Donc ça, c'est une initiative qu'on compte faire progresser, sur laquelle on a commencé.
Monsieur Giraud, monsieur Amiot, est-ce que vous avez...
Moi, personnellement, j'ai lu en détail ce qui se passe là, au niveau de la récupération de chaleur au CERN. Avec, bon, ça va être pour alimenter en plus un nouveau centre commercial, qui me semble, enfin, un nouveau centre à Ferney-Voltaire qui me semble encore plus important que Open, hein, si je ne sais pas ce que c'est, mais ça paraît énorme. On a vécu ça dans les réunions de l'aglo, là, la présentation, ça paraît énorme. Mais enfin, bon, il y a un très joli projet de récupération d'énergie qui se met en place avec la participation de l'ADEME et puis de la SPL de Ferney-Voltaire. Là, il faut quand même surveiller que ce ne soit pas que de la communication et que ça aille au bout, parce que ce sont des gros travaux qui sont engagés là aussi. Concernant les transports et tout ça, la pollution, on a, par exemple, nous à la montagne, on voit les camions de gravier qui n'arrivent pas de passer le code de la faucille, je ne sais pas, il y en a peut-être 200 ou 300 par jour, des camions de 40 tonnes. Alors, régulièrement, on fait la route nationale avec 20 cm de goudron, là, je ne sais pas, c'est assez. Et puis, alors, on se dit, moi je me dis, mais alors, on n'a pas de carrière au Pays d'Aix, mais on va détruire la forêt du Rizou ou la forêt de Champagnol. Et puis, il y a des camions qui n'arrêtent pas de passer. Là, c'est impressionnant. Donc, à la descente avec du gravier, puis à la montée avec des déchets. Donc, en final, moi, je me dis, par rapport à tous ces phénomènes, je me dis, mais il y a un problème. On a, comme le disait monsieur tout à l'heure, on a tous ces gens qui vont travailler en Suisse. Donc, il faut mesurer les conséquences, puis il faut s'organiser en fonction. Mais on ne peut pas continuer comme ça et dire, la Suisse se développe, le travail se développe. La France entière vient en Pays d'Aix pour travailler en Suisse ou en Pays d'Aix ou en Haute-Savoie, là, pour travailler en Suisse. Et puis après, ben, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez de carrière pour construire, on n'a pas assez de place pour construire, on a trop de commerce, on a trop de. Il y a une espèce de désordre général dans la réflexion, là, ça fait peur, quoi. On n'a plus envie d'y penser au bout d'un moment. On a envie de jeter la boîte de coca sur le talus, pratiquement. Hein. C'est ce qui se passe des fois. Et.
Ne faites pas ça, pour ceux qui nous écoutent, ne faites pas ça.
Il faut beaucoup d'analyses, d'informations pour comprendre ce qui se passe, montrer ce qui est bien fait, parce que c'est vrai qu'à l'aglo, il y a des choses qui se font, ben, c'est pas facile, hein. Faut y mettre en place, il y a des choses qui se font. Voilà, moi je sais pas, c'est compliqué. Moi j'ai besoin d'informations, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de discussions, pas de combat. J'ai pas aimé le combat contre Open, parce que ça n'a pas été pris dans un ensemble global. Moi, je sais qu'il y a ce centre commercial Open, comme les autres, il ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas de voir arriver tous ces commerces, mais enfin, des commerces, on va agrandir Val Thoiry. Moi, je n'aimais pas Val Thoiry. On va construire à Divonne, on va construire à Ferney, on va construire au centre de Gex. Autour de Leclerc, là-bas, il y a plein de magasins qui sont vides. Moi, je ne comprends plus rien, là. Il faut m'expliquer. Donc, si je n'ai pas des interlocuteurs pour m'expliquer tout ça, j'ai plus envie de ramasser mégot par mégot autour du Pays d'Aix. Hein, voilà. Il y a des proportions qui ne fonctionnent plus. Là, on sait plus. Et donc, tous ces gens qui vont travailler en Suisse, il y en a beaucoup qui sont un peu, je les appelle les écolo-bobos. Moi, j'appelle ça les écolo-bobos qui critiquent, ben voilà, qui critiquent tout, et puis après, bon, ben, le lendemain, ils vont quand même travailler en Suisse, et puis quand on fouille un peu, les multinationales pour lesquelles ils travaillent, des fois, c'est pas très jojo. Hein. Donc, voilà. C'est difficile. Il faut m'expliquer des choses, et quand on parle avec les gens, souvent, on arrive avec, moi, dans mon métier, on arrive à des impasses, et au bout d'un moment, on n'a plus qu'envie de bien trier nos ordures, d'être consciencieux, d'être bien propre sur nous, autour de nous, parce que ça fait du bien, et puis c'est notre amour propre. Ça, c'est la première règle, de bien communiquer, et puis d'essayer de comprendre comment on peut essayer de protéger la nature malgré ce développement exponentiel. Hein. C'est incroyable. Hein.
Merci. Florence, est-ce que vous voulez...
Moi, une remarque peut-être plus générale, c'est que je pense que la décroissance est probablement la réponse à beaucoup de questions qui se posent et de défis qu'on a. La décroissance. Seulement, alors sous toutes ses formes, hein, Seulement, je pense que malheureusement, pour beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas une réponse audible. Et donc, on peut soi-même dire, je veux être décroissant, mais il faut aussi penser qu'il y a l'immense majorité de la population qui n'entend pas ce discours-là. Et donc, il faut quand même essayer de rallier le plus grand nombre à cette cause de dire comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on ralentit, comment est-ce qu'on réduit notre impact. Et donc, il faut aussi dire qu'il va y avoir un discours de petits pas et être aussi dans les choses positives. Je pense que la question de Yannick, de dire alors c'est quoi les initiatives positives, c'est essentiel de regarder aussi, de regarder ce côté-là de la lorgnette et de se dire... Dans le pays de Gex, il y aura bientôt aussi une voie verte pour descendre de Gex à Ferney et ensuite connecter sur la Suisse. Ça fait 10 ans, moi j'habite dans le pays de Gex, je trouve que c'est génial, ça fait longtemps qu'on l'attendait, les choses sont en marche. Il y aura la voie de bus à haut niveau de service, qui est probablement pas parfaite, mais qui est aussi un élément de réponse. Donc il y a la ressourcerie, on en a parlé tout à l'heure, d'Ornée, on va voir, je connais pas exactement le projet pour pas avoir été en contact avec eux, mais ça paraît aussi des bonnes solutions. Donc regardons aussi... Parce que je pense qu'à se faire peur, on ne fait rien. Donc regardons aussi ce qui se passe, ce qui est positif. Faisons confiance. Alors là, vraiment, moi, je suis tout à fait en accord avec Vinciane. Faisons confiance à nos jeunes. Entraînons-le dans le combat quand c'est pas... Parce que je suis pas une guerrière, mais je trouve que le mot combat s'applique assez bien. Et il nous entraîne, il nous ouvre la voie. Et c'est à nous aussi, tout ça, c'est pas de conflit de génération. On y va ensemble. Et il se passe, il faut créer un élan. Et nous, dans le zéro déchet, on est aussi dans la notion de je fais ce que je peux faire, ce qui me fait, entre guillemets, plaisir à faire. Je ne porte pas une culpabilité énorme parce que ça, c'est la meilleure façon d'éloigner tout le monde du débat, quoi, et de l'action. Donc, sans être des gens qui croient qu'ils voient toute la vie en rose, le nom m'échappe.
Des bisounours.
Merci.
Des bisounours verts.
Ne soyons ni ayatollah, ni bisounours, mais mettons-nous à la place aussi de ce que c'est qu'un citoyen moderne et comment est-ce qu'on peut attaquer, sous quel angle on attaque, comment est-ce qu'on sensibilise les gens.
Alors voilà, on a bien avancé sur ce débat, donc sur la radio Zéro Déchet, Into the Wild, Gex. On en fait un peu de déchets, on a bu du thé un peu, mais ça va, pas trop de déchets. Avec peut-être, ça fait un petit bout de temps qu'on discute, qu'on échange des points de vue, on se rend compte que un milieu associatif, un milieu politique, plus des citoyens, on a des enjeux avec des rythmes qui sont peut-être pas les mêmes, peut-être pas compatibles, donc il y a des choses à inventer, à changer, à remettre en place. Juste un truc, deux perspectives pour faire un tour de table final, peut-être de se réfléchir en se disant, moi je voyais qu'une bonne, alors je provoque un peu, mais qu'une bonne nouvelle, c'est de faire des pandémies. Parce que quand on fait des pandémies, on change de style de vie, mine de rien, on génère du télétravail, ça pose plein d'enjeux sociaux et effectivement de difficultés, mais ça repose quelque part, ça redonne un degré de liberté de revoir notre monde différemment. On peut voir ça comme quelque chose de positif. Et du coup d'avoir un rapport au boulot, à la consommation, à ce qu'on jette, à ce qu'on fait pas, qui est peut-être une opportunité de changement beaucoup plus forte que tout le reste, et qui là dans l'urgence on est vraiment dedans, donc je pense qu'il y a un truc, on peut voir ça comme ça peut-être. Et donc quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui sont bien à prendre là-dedans? Et d'autre part, si on se projette en 2050, donc dans 30 ans, avec la neutralité carbone qui est l'enjeu du pacte des accords de Paris, comment est-ce qu'on voit notre pays Gex? Comment est-ce qu'on aurait envie, comment est-ce qu'on imagine, parce que c'est aussi bien les jeunes, on peut avoir confiance en eux, mais il faut leur montrer le chemin. C'est nous qui sommes au poste, qui décidons la société pour eux. Il faut qu'on soit une solution, plutôt qu'un problème. Donc comment est-ce qu'on ouvre la voie et comment est-ce qu'on voit notre territoire en 2050? Voilà, assez brièvement, on va terminer. Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure, on a le temps. Mais qui c'est qui veut commencer? Alors Yannick, toi qui es aussi du milieu associatif, tu es ici pour parler pour faire circuler la parole sous le nom du pacte de la transition, qui est un pacte qui est né après les municipales, mais en même temps tu es un acteur du monde associatif, parce que tu as une société qui s'appelle Solucratie, qui essaye de dynamiser le territoire là-dessus. Yannick?
Ouais, alors sur la question de la pandémie, pour moi, il y a eu des effets négatifs et des effets positifs, forcément. L'effet positif, c'est que le confinement a permis pour ceux qui faisaient des travaux non essentiels, alors je fais des petits guillemets avec les doigts pour ceux qui ne voient pas, de se poser, de ralentir et d'enlever les œillères. Parce que quand on est la tête dans le guidon, en fait, on va tellement vite qu'on n'a pas le temps de se poser et de faire un état de la situation. Et là, ça a permis à pas mal de gens de faire un point de la situation sur l'état du monde, sur que ce soit au niveau environnement, que ce soit au niveau social, etc. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça a été bénéfique. Là où c'est négatif, c'est que le tissu social est en train de se disloquer super vite. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens en fait qui ont été déconnectés en fait de tout ce qu'ils faisaient, de leurs activités, etc. Il y a par exemple le club des retraités à Ferney qui fait plus grand chose. Ils essayent de faire des activités, ils essayent de se bouger, mais ils peuvent plus se réunir tous ensemble et tout. Donc il faut aussi penser à tous ces gens-là qui sont impactés par ce truc. Et sinon, au niveau émission de carbone, alors certes ça a réduit, etc. Enfin ça va chambouler pas mal de choses, mais la bonne chose, quelque part, c'est que ça a créé du chaos, et après le chaos, on peut décider comment on va faire retomber les choses et comment on va réarranger les choses. Mais ça nécessite un effort quand même, c'est-à-dire que si on regarde juste faire, on attend que ça se fasse, ça va juste retomber comme c'était avant, parce que c'est facile, parce qu'on retombe dans les ornières. Par contre, si on se sert de cette opportunité pour faire d'autres choses qui vont être plus bénéfiques, quelque part, pour remettre en place quelque chose qui prendra plus soin des gens, qui prendra plus soin de l'environnement, qui prendra plus soin de notre vie, de qui on est, de redonner du sens à tout ce qu'on fait, ça sera déjà beaucoup mieux. Et en fait, c'est bizarre parce que la question sur 2050, j'ai déjà du mal à me projeter jusqu'en 2030. Je ne sais pas si on sera déjà dans un état où on aura encore une société à gérer en 2030. Donc 2050, ça me paraît super loin et j'ai beaucoup, beaucoup de mal, en fait. Donc voilà, je suis très, très...
C'est l'exercice, hein, justement, c'est de dépasser ces murs de peur, de trucs dans lesquels on ne peut pas se projeter. Il faut savoir que le CERN a une projection en 2050 avec une demande de financement qui va jusqu'en 2070. Non, mais c'est vrai, hein, c'est rassurant quelque part. Hein. Le CERN sera toujours là, en tout cas. Merci Yannick. Peut-être l'association Zéro Déchet.
Oui, je trouve que la question est effectivement difficile en 2050 de se projeter, mais c'est clair qu'on se dirige vers un nouveau modèle. Enfin, on n'a pas le choix si on ne veut pas aller dans le mur. Et puis, je pense qu'il ne faut pas le voir en termes de contraintes, mais vraiment en termes d'opportunités. Et je pense que peut-être que la pandémie nous a permis aussi de redéfinir ce qui était essentiel pour nous. Et puis d'y aller, le changement peut faire peur, mais d'y aller, comme on l'a dit à plusieurs reprises, à petits pas, et puis de voir qu'il y a du plaisir aussi dans ce changement, de consommer autrement, de voir ce qu'on en retire, de créer des nouveaux liens à travers ces différents modes de consommation.
Oui, alors donc, moi, oui, 2050, bon. Ce qu'on voit se dessiner, c'est la numérisation dans tous les domaines. Et ça m'inquiète énormément. Moi, j'étais prof de SVT pendant. J'ai enseigné au Maroc, au Canada et puis à Ferney. Donc, la numérisation, franchement, ça me fait peur. Donc au niveau des enfants, hein, nous en SVT on faisait faire beaucoup d'expériences. Maintenant les principes de précaution font qu'on n'a plus le droit de manipuler une souris, et puis en fait ça coûte beaucoup moins cher de faire des expériences sur un ordinateur, de simuler un séisme, je veux bien. Mais bon, donc ça me fait un petit peu peur. Je ne vois pas tellement comment ça va évoluer. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que je pense qu'il faut que la population, que la société civile intervienne le plus possible. Quand il y a des projets locaux, il n'y a que comme ça qu'on peut essayer de faire tant soit peu modifier en fait, des projets qui sont inutiles. Les grands projets inutiles, nous, on en a vu beaucoup en France, pas que dans le Pays d'Aix. Et donc, c'est ça, il faut essayer de réduire, comme vous l'avez dit, essayer de réduire la consommation, moins gaspiller. Et voilà, donc 2050, Pays d'Aix, pour l'interrogation. Franchement, pour moi...
Ouais, alors Monsieur Giraud, vous allez nous sortir de cette impasse scénaristique et nous proposer quelque chose pour 2050.
Alors, moi, je reste sur mes fondements, c'est-à-dire que moi, autour de moi, ce que je veux favoriser, c'est la connaissance, le lien social et puis la solidarité. Et après, il n'y a que comme ça qu'on peut espérer que ben, tous ces problèmes, on les résoudra, que les énergies vont être suffisantes pour gérer que choisir ou les associations ou les collectivités, parce qu'il faut aussi les gérer. Et voilà, donc c'est les principes de base de la vie qui doivent être maintenus et retrouvés. Voilà, moi je vois ça comme ça, c'est la famille. Voilà. Et puis l'avenir, moi 2050, c'est ça, c'est le maintien de ce qui a fait la vie depuis des millénaires. Et puis c'est tout, hein, les relations humaines. Voilà. Et après, bah, les règlements, ils sont toujours faits pour être construits et défaits. Hein. Et il faudra que les jeunes les refassent derrière nous, les adaptent avec la numérisation et tout ça. Mais voilà. Ouais, j'ai pas de proposition concrète à vous faire. Sinon, ramasser les ordures sur les talus au bord des routes, c'est ça, je peux pas y voir.
Est-ce qu'il y aura des nouveaux téléphériques dans le Jura ou pas?
Alors nous, on en a un qui s'est monté là cet été, qui est complètement fou, c'est la tyrolienne. Alors la tyrolienne, je n'ai pas du tout accepté ça, c'est de la folie. Mais enfin, bon, il faudra des années pour comprendre et pour que c'est de la folie, et il faudra y démonter un jour. Même j'avais pas beaucoup accepté la luge d'été avec le tas de ferraille qu'il y a sur le col de la Faucille. On avait eu le Robodome aussi, on a eu les aménagements de parking avec plein de plastique, de béton, de je sais pas quoi là. Donc voilà. Et puis les sentiers sont pas bien aménagés. Le simple. On a vécu à la montagne, vous me demandez tout à l'heure, quelque chose de génial cette année, dans le sens de ce que je vous dis, c'est avec l'absence du ski alpin, la découverte du ski de fond en famille. Et puis la plupart des parents me disaient, mais c'est incroyable, on avait pas réalisé à quel point en ski alpin, on était séparés des enfants, alors qu'en faisant le tour à ski de fond, on a réussi à avoir une activité commune en famille chaleureuse et agréable. Ça a marché très fort. Nous, on a surfé dessus avec nos propositions en cours de ski. Ça a l'air de rien, mais enfin, on a vécu vraiment des beaux moments. Et on a côtoyé des gens heureux en famille sur les pistes de ski de fond à Lavaté. Voilà, une expérience.
Merci, monsieur Pinet. Henri, un petit commentaire de votre point de vue sur ces deux sujets, la pandémie et peut-être une projection à très long terme optimiste.
Bon, là sur la pandémie, pour moi la maladie c'est toujours négatif. De toute manière, ça a démontré que notre société est bien fragile, qu'on a beaucoup de difficultés à faire face, et on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Hein. C'est une pandémie, on peut dire mondiale, et on ne voit pas comment encore 2021 va se passer. J'espère que les vaccins vont arriver à régler quelque chose. Alors, me projeter pour 2050, il faudrait que je revienne voir. Et je rejoins Alain Giraud sur le social, pour travailler tous ensemble. Le problème, c'est qu'on peut travailler sur le local, mais actuellement, on n'est plus sur du local, on est sur du mondial. Quand on regarde tous les pays, tous les gens qui sont sur la Terre maintenant, vous avez des pays comme l'Inde ou la Chine qui vont consommer dans les années qui viennent beaucoup plus qu'ils consomment actuellement, donc, et d'autres pays. Donc le problème, il va être compliqué à résoudre. Et c'est vrai que dans le pays de Gex, moins on est nombreux, plus ça irait. Plus on est nombreux, plus c'est difficile. Sur la Terre, moins on est nombreux, ça irait. Plus on est nombreux, plus c'est difficile. Et donc, résultat, il y a du travail sur la planche.
Il y a du travail sur la planche, effectivement. Donc, bah, peut-être qu'on aura l'occasion de avoir de nouvelles discussions de ce type-là. En tout cas, c'est l'ambition de la radio Into the Wild, GEX, qui vise promouvoir une certaine idée de la transition tranquille autour de l'heure du thé. Cette émission s'achève avec nos intervenants. On peut donc remercier l'association Zero Waste qui était là, qui fait un travail de terrain et aussi juridique. Hein, donc l'antenne locale de Zero Waste France avec notamment un groupe Facebook. Hein, on peut vous retrouver sur Facebook, Instagram, Zero Waste Paygex. Monsieur Amiot qui porte le drapeau de la voix citoyenne dans les instances publiques aussi bien de la CCSPL que la régie des Josséciennes. Vous êtes encore là pour un petit bout de temps ou vous sentez qu'il y a du monde qui veut prendre votre place? Il n'y a pas grand monde. Hein. Voilà. En 2050, vous serez peut-être encore là, du coup?
En 2050, vu mon âge plus qu'avancé, non, je pense que je ne serai plus là. Et donc, justement, dans les associations, on a du mal à rajeunir les participants. Ça, c'est aussi un très, très gros problème, que ce soit ATTAC, que ce soit au bien commun, etc. On a, dans les associations, c'est aussi un des buts importants que les vieux essaient de recruter la relève.
Juste un petit point là-dessus, Zero Waste Paygex. Évidemment, si vous avez envie de nous rejoindre, faites-nous signe, via notre page Facebook, par exemple.
Alors, on n'y manquera pas. Yannick, PAC de la transition, est-ce que les jeunes affluent au PAC? Est-ce qu'on sent, hein, voilà, est-ce que ça accueille les voix des adolescents qui ont envie d'être les Greta Thunberg locales ou pas trop?
Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens motivés. J'ai encore discuté vendredi avec 3 personnes qui organisent des fresques pour le climat sur le Paygex. Donc, du coup, il y a... Voilà, il y a de plus en plus de monde qui se motive, qui se bouge, et il faut absolument rendre les activités des associations visibles pour que les gens qui s'activent puissent savoir dans quoi elles peuvent s'activer.
Donc merci à ce monde associatif. Monsieur Pinet, vous qui avez dirigé une des communes les plus importantes du Paygex et qui est aujourd'hui représentant de la société civile, la CCSPL, vous êtes optimiste ou vous vous dites que cette pandémie aura raison de tout et que finalement la population va s'effondrer, c'est tant mieux?
J'ai toujours été optimiste, alors je ne vais pas changer. Et de toute manière... Je fais confiance à l'évolution technologique et scientifique. On va faire, comme d'habitude, il faudra faire face aux événements. Je pense que les gens doivent rester optimistes. Il ne faut pas se laisser... il ne faut pas se laisser abattre, c'est le cas de le dire, quoi. Mais ça ne va pas être facile, quand même. Mais il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste.
Donc on va faire comme M. Giroud nous le dit, pour avoir des scénarios à long terme, il faut qu'on sème maintenant, hein, c'est ça un peu, hein, qu'on retrouve le lien qui nous lie à l'autre, et c'est cette force-là qui va nous amener quelque part sans avoir besoin de le prédire, mais il faut surtout s'attacher à être en lien avec l'autre, c'est bien ça?
Oui, bien sûr, il faut de la solidarité face à la pandémie. Beaucoup de solidarité pour ne pas tomber dans la peur et puis rester optimiste, bien sûr.
Et ben voilà, sur ces mots d'espoir, cette émission L'Heure du Thé, transition tranquille sur la radio Into the Wild de Gex, que vous pouvez retrouver sur le site internet, et ce podcast sera archivé pour des milliards d'années, puisque c'est prévu que on l'envoie dans les satellites qui vont aller dans d'autres galaxies qu'on ne connaît pas encore. Mais ça sera une archive historique de ce moment du 31 janvier 2021 autour de la table à Gex. On vous remercie à tous d'avoir été là et à tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous écouteront. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.